Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditrices et auditeurs de la web Radio Rage, voix de jeunes, bonjour, Sbarkhar alaikum Zulf Lewin pour cette nouvelle émission qui est toujours à l'occasion de la commémoration des événements d'octobre 88 où la web Radio Rage a consacré cette semaine pour le débat, pour la discussion, pour avec différents acteurs associatifs, syndicaux et politiques sur le mouvement d'octobre 88 et sur la situation générale du pays 29 ans après octobre 88. Donc nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir parmi nous deux représentants de deux partis politiques. Il s'agit de monsieur Benhella Wahid, membre du secrétariat national de MDS. Donc, Benhella Wahid, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Raj.
Je vous remercie de cette invitation.
Et aussi, monsieur Mahmoud Rochoudi, secrétaire général de PST, Parti Socialiste des Travailleurs. Bienvenue, merci d'avoir aussi accepté l'invitation de Raj.
Merci à vous aussi.
Donc, on commence aujourd'hui notre débat, c'est sur les événements d'octobre 88. Donc, la première question qui me vient directement, ça veut dire 29 ans aujourd'hui, après les événements d'octobre 88, qu'en est-il aujourd'hui sur le plan des libertés, des droits de l'homme, etc. Après 29 ans d'octobre 88. Qu'en est-il sur le plan des libertés, monsieur Rochoudi?
Ah, donc, ben, encore une fois, je remercie donc l'association Rage et sa radio pour cette invitation. Sinon, pour la question, ben, comme vous pouvez le constater, comme tout le monde, je crois, je constate qu'il y a une régression, une très grande régression en matière de liberté démocratique en Algérie, 29 ans après. Après le 5 octobre et après les événements d'octobre 1988. Et parce que ces événements, donc il y a 29 ans, qui correspondaient donc à cette explosion, disons, de la jeunesse algérienne à l'époque, a débouché sur une ouverture, disons, démocratique par rapport à la situation d'avant, la situation qui a caractérisé notre pays avant 88, c'est-à-dire depuis l'indépendance jusqu'aux événements d'octobre 88. Et qui était marqué par, la dictature du parti unique et donc l'interdiction de toute possibilité d'expression démocratique, qui indépendante et autonome, qui sort du carcan contrôlé par le parti unique, le FLN à l'époque et ses organisations de masse, etc. Et donc octobre a débouché sur cette ouverture qui a permis donc aux Algériennes, aux Algériens, de s'accaparer donc d'un espace démocratique qui correspondait à cet espoir et cette attente de liberté, certainement dans notre pays, mais il correspond aussi, il me semble, à une problématique d'ordre économique et social qui a caractérisé le contexte de cette époque. Qui au moins, c'est-à-dire on va au moins rappeler, pour ne pas aller plus loin, la chute justement du prix du pétrole, puisqu'on en parle aujourd'hui aussi, de 1986, et qui a créé une situation très délicate et très difficile à l'époque pour le régime, d'autant plus qu'il y avait une accumulation, disons, de dettes extérieures du pays, donc il fallait rembourser, etc. Et donc on s'est retrouvé dans... Le régime lui-même s'est retrouvé dans cette situation, mais aussi au niveau social. En Algérie, on était au bord d'une explosion aussi sur les questions économiques et sociales. Et ensuite, la suite, bon, on pourra y revenir, mais pour juste en y rappeler, nous vivons une grande régression aujourd'hui par rapport à ce qui a pu être arraché comme conquis ou acquis démocratique de l'époque. Quand on voit, par exemple, qu'on n'a pas le droit de manifester, alors qu'on manifestait à l'époque. Moi, personnellement, je faisais partie même de ceux qui ont manifesté avant 88, je veux dire, dans le mouvement lycéen, dans le mouvement étudiant, etc. Quand on voit qu'on manifestait, même pendant qu'il y avait des bombes qui explosaient dans les années 90, en 93, ou 14, ou 15, quand on voit qu'on manifestait donc en octobre, face aux chars, face aux tirs des militaires, pendant ces événements. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de manifester. Quand je vois que moi, je faisais partie de ceux qui ont participé dans des grèves en 78-19, dans le mouvement lycéen, les travailleurs qui faisaient grève, etc. Et aujourd'hui, faire grève, c'est presque le parcours du combattant, je veux dire, puisque souvent, on se retrouve devant un juge qui dit que la grève est illégale, etc. Pour constituer une organisation, une association, un parti politique, un syndicat, on voit bien quelles sont les difficultés qu'on a par rapport à la liberté d'organisation. Donc, c'est-à-dire, la régression, elle est là, elle est palpable, elle est concrète. Maintenant, dans les textes, il peut y avoir des textes qui, dans la Constitution ou ailleurs, qui donnent des droits, etc., etc. Mais on voit bien que, dans la réalité, comme on dit, la liberté ne s'use que si l'on s'en sert pas. Et on s'en sert pas, justement, parce que le rapport de force dans la société a régressé, pas en faveur de la démocratie, mais en faveur, justement, du retour d'un parti unique, nouveau, qui peut s'appeler FLN-RND ou pas, ou avec leurs deux ou trois amis sur comme façade politique. Mais c'est une dictature de la force de l'argent qu'on est en train de voir, qui est en train de gagner. Il y a le son de la décision politique, c'est une dictature qui veut faire taire tout le monde pour qu'elle puisse s'accaparer tranquillement des richesses et des biens de notre pays et de notre peuple.
Merci, Monsieur Benhella, et à votre avis, si vous avez une idée aussi sur un constat sur les libertés des droits de l'homme aujourd'hui, 29 ans après, est-ce que vous constatez qu'il y a un recul énorme par rapport au début des années 90, juste après 88?
Avant tout, je vous remercie pour votre invitation. L'association là, j'ai votre radio web. Je salue mon camarade Mahmoud Rachidi. Rachidi, plus exactement, du PSD. Moi, la première des choses, je tiens à dire bulk seulement qu'en 88, j'avais presque 18 ans. Donc c'était un mouvement qui était nouveau, pas, je dirais pas sur le plan événement historique, hein, parce que comme le rappelait Mahmoud, il y a eu par le passé déjà des mouvements importants dans la société. Le plus important, peut-être, ça a été le printemps 80. Il y a eu les grèves de Constantine en 86. Donc, c'était aussi l'aboutissement d'un processus aussi politique et démocratique dans l'histoire de l'Algérie, je dirais, hein. Et donc, bien sûr que ce processus, bien sûr, a ouvert rapidement, on va dire, sur la démocratie. Mais en fait, quand on s'est confronté dès le départ à deux choses, parce que 88 n'a pas permis réellement, n'a pas permis d'établir la vérité, parce qu'on avait amnistié directement ceux qui avaient torturé, tous ceux qui avaient participé, on va dire, au mouvement de contestation, et même à l'avant, hein, parce que moi, Mahmoud peut-être le sait, il y a eu beaucoup d'arrestations chez les partis de gauche en cette période, avant le Pax notamment, avant le déclenchement, parce qu'on a voulu, quelque part, neutraliser toutes les forces politiques démocratiques, des forces démocratiques qui pouvaient porter ce mouvement. Mais réellement, on a débouché sur l'amnistie, je disais, sur l'amnistie de ceux qui ont torturé pendant cette période, mais aussi avec l'ouverture d'une démocratie, d'un jeu démocratique biaisé, en agréant d'un parti, je dirais, le fils, qui était, on va dire, à contre-courant, complètement, qui était à contre-courant de tout ce que pouvait incarner, on va dire, 88 en matière d'aspiration sociale et économique, mais aussi démocratique. C'est évident, ce jeu a été ouvert par Chadli, qu'on nous présente à chaque fois comme le porteur du projet démocratique ou le porteur de l'ouverture démocratique en Algérie. Et comme je rappellerai que dans les années 80, ce président, c'est lui qui est derrière l'article 120, qui a exclu énormément de cadres démocratiques et qui a vu réellement la consécration du FLN comme parti unique dans le jeu politique. Mais aussi, moi je dirais que ce processus aussi peut paraître, on va dire, après 88, on a des acquis qui sont incontestables dans la forme avec laquelle la société s'est accaparée de 88, même si on était passé par, on va dire, la décennie noire, où il y a eu la violence islamiste, quand même, les Algériens se sont accaparés de différentes formes de sphère, d'espace démocratique, et ça, cela s'exprime actuellement à travers des formes d'expression de la citoyenneté qui n'existaient pas avant. On voit bien sûr la multiplication de syndicats dans le mouvement syndical, les questions environnementales qui deviennent de plus en plus importantes, les questions, on va dire, féminines qui, de plus en plus, même si on est en retard par rapport aux luttes des femmes algériennes et qui resteraient de plus en plus à faire plus pour la consécration de l'égalité à part et entière entre hommes et femmes en Algérie, mais on a des acquis et je crois que ça fait que la société, de plus en plus, devient un acteur incontournable dans le jeu politique, même si, réellement, on fait tout pour l'exclure de la décision, mais de plus en plus, elle le fait savoir à travers l'abstention. Elle le fait savoir parce que le pouvoir fait tout pour soi-disant caporaliser la société à travers le clientélisme, mais de plus en plus, on voit que la société refuse d'entrer en jeu. Et je crois que les dernières élections législatives de 2017, mai 2017, ont prouvé la fin de ce système politique qui ne peut plus vivre, on va dire, avec le binôme de parti État, le RND et le FLN, qui consacrent, on va dire, le système, autoritaire et despotique en Algérie. Donc il y a des acquis importants, mais il y a des acquis importants parce que je dirais qu'il y a des formes nouvelles. Je crois qu'on est à la veille d'un mouvement post 88 qui consacrerait de plus en plus cette citoyenneté et consacrerait, même si on fait tout pour cacher et pour réduire 88 et l'enlever de la mémoire des Algériens et des Algériennes, mais je crois que ces luttes n'ont pas été vaines et de plus en plus les Algériennes et les Algériens seront reprendre, on va dire, l'espace public, l'espace politique et l'espace socio-économique.
Merci, M. Wahid. Moi, je reviens sur l'origine des événements d'octobre 88. Ça veut dire, c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure sur la crise économique qui a secoué le pays des fins des années 80. Mais il y a aussi ceux qui disent que c'était la manipulation du pouvoir. Ce n'est pas un mouvement spontané. Que vous dites-vous, M. Mahmoud?
Chouf, pour être... Il faut rappeler un certain nombre peut-être de choses historiques, d'événements, etc. pour situer. Parce qu'il faut, on parle de 1988, il faut au moins se remettre un petit peu dans le contexte, contextualiser, comme on dit, les aspects historiques pour ne pas voir les choses avec les yeux d'aujourd'hui, peut-être être un peu en déphasage. Donc, ce qu'il faut rappeler, déjà que 88, évidemment, je crois que tout à l'heure aussi, mon ami Wahid le rappelait, c'est-à-dire comme un processus. Donc alors quand on remonte en réalité l'histoire des années qui ont précédé, c'est aussi l'histoire des luttes sociales en Algérie. Je veux dire, soit on reprend à partir de l'indépendance,
années 80.
Non, même dans les années 70, attention, c'est-à-dire 80, le printemps 80, c'est un événement qui est venu boucler un cycle de luttes. C'est qu'il y a eu des luttes avant, ensuite il y a eu 80, ensuite il y a eu un creux de la vague avec l'article 120, 81, ensuite, 80, et ensuite il y a une reprise à partir de 86, c'est un petit peu comme ça, en tout cas que... Alors, si la dynamique de l'indépendance de 62 a connu des luttes aussi à travers le mouvement autogestionnaire, sur la question qui va, justement, les choix économiques, sociaux, quels choix politiques, etc. en Algérie, ça s'est terminé, il y a eu le coup d'état du 19 juin, et tout un intermède de répression, etc. jusqu'au début des années 70. Au début des années 70 jusqu'en 75-16 avec l'histoire de la charte nationale de Boumediene et la première constitution de Boumediene, etc., etc., ce qu'on appelait l'institutionnalisation du régime à l'époque, c'est-à-dire où il y a des institutions, etc., qui ont été mises en place, etc. Ça a aussi marqué le début de le réveil. Les premières grèves de SNS, je me souviens, en 74, où là, par exemple, si aujourd'hui les étudiants, ils ont un transport qui s'appelle le COUS, eh ben, c'est les grèves de 76, les diabos et les étudiants, donc les luttes de 1976. Par exemple, il faut savoir qu'en 1977, il y a eu quelque chose qui ressemble presque à la grève générale dans tous les secteurs en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la grève de la santé, la grève des cheminots, la grève des PTT, la grève... Tous les grands secteurs ont fait une grande grève en 77. Et d'ailleurs, à l'époque, Boumediene était obligé de venir négocier avec les cheminots sur les quais des ateliers de la gare d'Alger. Et c'est là où on a connu une augmentation de salaire de presque 50%. Ça, on est bien avant 80, hein, je veux dire, le printemps 80.
Ça veut dire, il y a des mouvements.
Voilà, donc il y a plusieurs luttes, etc., qui ont marqué. 1980, certainement, il a une dimension. C'est-à-dire, il a une dimension politique particulière dans la mesure où il posait une problématique nouvelle. Et à une échelle de masse, à une échelle de mobilisation de masse, etc. Et surtout avec la répression qui a suivi, etc. Et les arrestations, et les détenus, etc. Et donc 80, il a marqué de ce point de vue cette aspiration à la diversité culturelle, à la diversité identitaire, linguistique. Et il posait donc des problématiques qui n'étaient pas prises en charge, et notamment démocratiques, notamment sur le plan démocratique. Mais 80 aussi posait le problème. L'un des moteurs, c'était pour le vrai socialisme, il faut savoir. C'est que les questions sociales et économiques étaient aussi au fond. Contrairement au discours, je veux dire, certains qui veulent maintenant réécrire aussi l'histoire à leur façon, en imitant le pouvoir qui réécrit l'histoire à sa façon. Et ensuite, donc, dans les années 80, on va trouver, par exemple, dès le début des années 80, bon, déjà en 81, avant l'intermède, il y a eu d'autres luttes, etc., quand on voulait casser l'UGT à O'Kamel. Ensuite, on va retrouver, je sais pas, à Oran. Je me souviens, à la rentrée 82, c'était une grande grève Sonacom pour les bénéfices. En septembre 1982, le Sonacom Rouiba. En 82, il y a eu les événements d'Oran, il y a eu les événements de l'Herbe. En 84, 85, il y a eu les soulèvements des habitants de la Casbah d'Alger. En 86, en 85, aussi pendant ce moment, et d'autres luttes. Il y a les luttes démocratiques, il y a les arrestations d'un certain nombre de partis politiques, de militants politiques de l'époque, qui sont devenus plus tard, je veux dire, connus, soit à travers le mouvement des fils Chouhada, la Ligue droits de l'homme, etc., soit à travers le comité des intellectuels, etc., où il y avait la gauche, etc.
Donc, vous voulez dire que c'est une suite logique.
Voilà, donc c'est-à-dire il faut voir les processus, il y a des mètres de lutte, bon, et à tel ou tel moment, dans d'autres ingrédients qui viennent dans un contexte, ça prend une telle ou telle dynamique. Alors, la chute du prix du pétrole, en 86, où le pétrole a frôlé les 9 dollars à l'époque, 9 dollars, 8 dollars le baril, et l'Algérie était endettée, c'est-à-dire contrairement au contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire là, il y avait des dettes extérieures, etc. Et donc, c'est-à-dire, il y avait une problématique. Maintenant, quand on dit, est-ce que ça a été décidé dans les parce que la thèse, est-ce que ça a été dans les laboratoires qui a...
Bon. Surtout après alors le là, discours de
alors là, on doit,
qui a provoqué...
Oui, alors là, il faut répondre sur deux aspects, à mon avis. De mon point de vue. La première des choses, c'est par rapport à cette approche toujours de ce qu'on appelle la théorie policière, la théorie conspiration, vision conspiratrice de l'histoire, etc., que tout ce qui se passe, il est toujours décidé de quelque part, dans un laboratoire, et donc ça veut dire comme si les luttes réelles, comme si les gens qui se battent, comme si la lutte des classes, etc., n'existait pas. Alors que non, ça existe, il y a des gens qui se battent, etc. La deuxième des choses, ça c'est en général. Donc il faut se méfier des approches, tout a été manipulé quelque part. La deuxième des choses sur octobre 88, c'est que bien sûr, il peut y avoir des aspects, des approches du pouvoir, puisque la situation était explosive de toute façon, sur le plan économique et social déjà, mais sur le plan aussi, c'est-à-dire politique, puisque c'était il y a la répression, etc., a atteint. Bon, ben le pouvoir peut décider de dire, puisqu'il va y avoir de toute façon une explosion, il vaut mieux que je provoque une explosion, que je contrôle. C'est possible que les choses... Mais ce qui est sûr, puisque maintenant on parle d'un événement qui a 29 ans, donc c'est de l'histoire, donc on sait quand même un petit peu quand même les choses réelles qui ont eu lieu. Ben, parmi les choses réelles qui ont eu lieu, c'est que, combien même il y aurait eu une manipulation, l'événement en soi, l'explosion d'octobre, a échappé au pouvoir et a échappé à tous les calculs. La preuve, c'est que ça a pris une tournure nationale. La preuve, c'est que le pouvoir, au début, il a proposé comme ouverture quoi ? Il a proposé d'entrer tous au FLN. Il a proposé est-ce que toutes les expressions politiques soient des courants à l'intérieur du FLN. Et il a fallu construire un rapport de force en novembre 88 et décembre et au début 89, etc., pour imposer le multipartisme, pour imposer une ouverture plus grande qui n'était pas prévue.
C'est vrai, donc voilà. C'est une suite logique, voilà. Au processus d'un combat mené par des démocrates progressistes. Mais M. Wahid, on a vu que les islamistes ont récupérer le mouvement des années 88. Est-ce que les islamistes sont forts à cette époque-là et bien organisés? Est-ce qu'ils étaient actionnés par le pouvoir?
Moi, je voudrais bien que réagir et nuancer parce que dans le sens où dire qu'on l'a vu, ce qu'on appelle maintenant le printemps arabe, hein, ce qu'on appelle le printemps arabe. On a une situation réelle, une maturation quelque part, ou l'aiguisement de contradictions dans les sociétés qui ramène, on va dire, un mouvement social qui est là. Après, bien sûr, il y a des facteurs qui marquent Al-Mahmoud, qui sont internes, hein, qui veulent manipuler ou contrôler le mouvement, ou de l'extérieur d'ailleurs, comme on l'a vu partout dans cette période arabe-arabie, mais ce qui est réel, que dans la société, les contradictions tellement se sont aiguisées que la maturité de la société, justement, que ça a explosé et que ça a pris une tournure nationale. Et je dirais que 88 a permis, on va dire, des redondances, ou là, un séisme qui a des secousses répliques quelque part. On les a vues après 2001, d'ailleurs, 2001, qui a été un autre chapitre de l'évolution démocratique de l'Algérie, où on a eu un mouvement général, ou le moment où le pouvoir peut-être ne l'attendait pas, parce qu'il voulait, il a proposé sa concorde civile, il croyait qu'il avait réglé le problème, mais réellement, il a eu une émergence nouvelle dans la société, parce qu'il y a eu des aiguillements nouvelles, comme je disais, et aussi, maintenant, hein, à travers, je parlais tout à l'heure des aiguillements de contradiction, et la diversité des formes d'expression citoyenne, qui sont les acquis de 88, les questions d'un salaire sur le gage du 6, personne ne s'attendait qu'à un salaire, qu'il y ait eu un mouvement comme ça, pareil, en qualité, dans la forme, la participation des femmes et des hommes, et on va dire le droit de revendiquer par rapport à...
On n'a pas vu l'encadrement des partis, des démocrates...
Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Mais pour revenir à... Ça, c'est une question. Mais pour revenir à la question de l'islam, c'est vrai. Parce que moi, je rappellerai que Chedli Benjdid, il avait dit, je vous donne, je donne l'agrément au fils comme je l'ai donné aux communistes. Non, il a dit comme je l'ai donné aux communistes. C'est-à-dire, il a placé dos à dos deux partis, on va dire, pour en fait compte, pour faire la confusion dans son projet, en fait compte de, je dirais, d'alliance avec l'islamisme. Et cette alliance avec l'islamisme, elle est apparue bien avant. Et les gens ne se rappellent pas, on va dire, tout ce qu'a fait comme compromis Chedli pendant les années 80 avec l'islamisme. Et donc, c'est évident, en plaçant dos à dos aux communistes, on a laissé l'islamisme, qui était, je le rappelle, en matière de référent idéologique et politique et socio-économique, était en contradiction totale par rapport à ce que 88 a ramené. Donc, c'est évident que l'islamisme a été utilisé quelque part pour, quelque part, comme un bâton contre la société algérienne. Et nous, nous disions à cette époque que l'islamisme, c'était la rente portée à son paradigme. C'est-à-dire, c'était le projet le plus libéral qui était proposé dans cette période. Et l'islamisme avait cette ambition. Donc, bien sûr, qu'il y a eu quelque part, l'islamisme tenait sa force, non seulement par rapport à sa capacité, on va dire, organique ou la politique, mais parce qu'il avait quelque part un soutien. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de militants du PAX qui ont été arrêtés à la veille de 88, parce qu'on voulait dès le départ empêcher qu'il y ait une jonction avec les courants, on va dire, politiques les plus organisés dans cette période, dans la clandestinité qui était organisée, mais pour éviter qu'ils puissent, on va dire, encadrer le mouvement. Et donc, quelque part, ouvrir la porte, la brèche à l'islamisme. Et d'ailleurs, je le rappelle, on voit quelque part, il y a un parallélisme, il y a une ressemblance terrible entre ce qui s'est passé en Algérie en 88 et les événements arabe-arabiques. Comment, quelque part, des mouvements sociaux qui sont là, qui revendiquent la liberté, la justice sociale, et quelque part, on réprime les militants, on va dire, démocratiques qui sont derrière les revendications, et on ouvre la porte au courant islamiste. Donc ça, c'est évident qu'il ne constituait pas, on va dire, une force réelle. Je crois que ce courant politique a été boosté, et on va dire boosté dans le sens même renforcé. Il y avait une alliance, et le pouvoir, en fait, quand Chedli était prêt à gouverner avec l'islamisme dans cette période. Mais pour revenir à...
En quelque sorte, le pouvoir a cautionné le fils au détriment des démocrates par
Il a donné l'agrément, bien sûr, il est parti vers une alliance avec l'islamisme.
Surtout, mais est-ce que le fait qu'il a donné l'agrément pour un parti islamiste, ça veut dire...
Qui était en contradiction par rapport à la Constitution, par rapport à la Constitution elle-même, par rapport à la Constitution elle-même en matière de valeurs démocratiques. Parce que ce parti niait déjà la démocratie. Il a nié comme valeur, hein. Il s'est dit que la démocratie s'exercera une fois à l'urne et après elle n'aura pas lieu. Donc c'était on va dire un contre-projet par rapport à 88, ce que portait 88.
Mais, Mais si, mais s'il y a vraiment, ça veut dire un contrepoint de la part des démocrates progressistes, et le fils n'arrive pas quand même à encadrer tout le mouvement, même s'il a la guérison, mais il sera un
certain. Sur la question de l'islamisme, si je peux dire un mot, c'est-à-dire, attention, parce que. Il y a toujours, disons, un moment ou un autre, c'est-à-dire, il y a les nuances,
etc., il va falloir... Vous, autant
c'est-à-dire, attention, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus, à mon avis, c'est-à-dire, aller dans le sens de dire comme si c'est l'agrément de Chadli qui a inventé l'islamisme radical. Non, l'islamisme radical existait avant. Voilà, comme si l'agrément est venu le codifier, comme le code de la famille. Il n'a pas inventé l'oppression des femmes, mais il est venu la codifier dans une société qui opprime des femmes aussi. Donc, c'est-à-dire, voilà, en quelque sorte, c'est-à-dire, il faut bien, comme ceux qui disent l'école, c'est l'école qui a donné l'intégrisme. Non, l'école n'a pas inventé l'intégrisme. La preuve, c'est que l'école de Tizi Ouzou ne donne pas la même chose que l'école de Boumerdès, voilà, alors que c'est le même programme. Donc c'est un peu plus... Et puis l'islamisme, ce n'est pas un phénomène algérien. Algéro-algérien, c'est un phénomène. Donc il y a d'autres facteurs. Donc il n'y a pas Chadli qui a donné des agréments ailleurs. Il y a d'autres régimes, il y a d'autres trucs dans d'autres pays. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc,
c'est-à-dire
j'essaye juste. Et je considère qu'on est d'accord là-dessus. C'est pas ça le. J'essaye juste de dire que l'islamisme aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir le dire. Parce que l'islamisme aussi, c'est une réalité dans la société. Et à tel ou tel moment de crise politique en Algérie, ils ont pu jouer le rôle sur combien même ils étaient minoritaires d'un point de vue numérique, etc. Mais ils sont devenus hégémoniques dans le camp populaire. C'est-à-dire, même s'ils sont minoritaires dans le village, mais leur discours politique, leur influence politique devient hégémonique en quelque sorte, ce qui a leur donné cette possibilité. Mais bien entendu, comme le disait si bien mon camarade Wahid tout à l'heure, c'est-à-dire, le pouvoir, le régime a joué à fond le sponsoring des courants islamistes avant 88 déjà, pendant 88 et même avant, jusqu'au point où il s'est dit bon, mais ça ne veut pas dire que le pouvoir voulait faire de l'islamisme. La preuve, c'est qu'il a fallu ensuite faire des coups d'état là, pour arrêter quand ils sont devenus dangereux, qu'ils remettaient en cause même le pouvoir lui-même, etc. Mais il les a bien utilisés. Et il faut aussi, c'est-à-dire, rappeler, peut-être insister, tout à l'heure le Wahid Thani l'a mentionné, cette volonté du pouvoir de réprimer à la veille de 88, dans les courants de gauche fondamentalement, et dans le courant Le Pax, notamment, et les militants connus de l'extrême gauche ou des syndicalistes connus, etc., où c'était par dizaines et par dizaines qui ont été arrêtés et torturés. Il faut bien le savoir. D'ailleurs, c'est-à-dire ce qui a marqué les événements de 88, c'est la torture, qui n'était pas à cette échelle de masse depuis 62, et plus les assassinats, c'est-à-dire on a tiré sur le peuple. Et que d'ailleurs, la torture, c'est-à-dire des militants, notamment de gauche, etc., comme je viens de le dire, était tellement, c'est-à-dire un événement grave et important à une échelle tellement vaste, qu'il a fallu d'ailleurs mobiliser un grand mouvement contre la torture qui s'appelait le Comité National contre la torture en Algérie, qui demandait à ce qu'on ouvre les trucs, on demandait des comptes par rapport à... Puisque Nazar, Khaled Nazar était l'un des dirigeants, Bchin était parmi ceux qui étaient à la tête des services à l'époque, etc., et qui ont... Et qui ont donc des responsabilités dans ces domaines. Et alors que les islamistes, non. Par exemple, à ma mémoire, je le dis, c'est-à-dire sur mon compte, à ma connaissance, par exemple, le 5 octobre, le 6 octobre qui était un jeudi, le 7 qui était un vendredi, il y a une marche. C'est là où on voit le truc, qui viennent, les Belhaj et compagnie, démarrent, Malqabam, Malzana, ils arrivent à 1er mai, il y a les gendarmes, etc., qui viennent, et les Belhaj, apparemment, lui tombe, même le micro, c'est-à-dire le mégaphone, tiens. On lui donne le mégaphone pour parler. Quelques jours après, quelques semaines après, Ali Belhaj, qui ne représentait personne, était reçu, par exemple, par le DGSN.
Oui.
Et donc ça veut dire qu'on est en train d'en faire
je voudrais aussi réagir.
Et on a tout fait pour que le fils puisse apparaître hégémonique dans le camp populaire, etc., au détriment des militants de gauche, des militants démocrates, etc., qui pouvaient représenter une alternative.
Merci,
Mahmoud. La question de la présence d'une sensibilité, je suis d'accord qu'il y a une sensibilité d'un courant politique, mais la faute, elle est politique dans le sens où il y a une institution de l'État, l'institution de l'État qui a quand même accepté dans les statuts d'un parti qui était en contradiction par rapport à la loi fondamentale de l'État.
Mais
ça veut dire quelque part.
Si vous me permettez, ça veut dire vous, en tant que parti politique, vous êtes des démocrates. Qu'est-ce que vous avez fait à cette époque-là? comment que l'État a cautionné le fils, a
on l'a combattu, on l'a combattu, on l'a combattu sur le terrain. C'était parce que c'était une période, même si c'était jeune, mais c'était une période de confrontation idéologique terrible. Et je crois, quand Chedli place les communistes et les islamistes en face, je crois que notre courant a été dans l'avant-garde de ce combat, même s'il a participé au communal, mais c'était le premier appelé à l'arrêt du processus électoral, parce que quelque part, nous avions quelque part des expériences par le précédent. On a eu le parti Toudah qui nous avait alerté sur cette question de l'islamisme et du danger de l'islamisme. On le voit bien dans la Syrie actuelle, comment les courants islamistes, le daéchisme, que ce soit le Daesh ou tous les courants, vont quelque part à la destruction de l'État. Non, quand tu disais une société, dans les sociétés, ça veut dire, il ne faut pas qu'on voit l'aspect manipulation de l'étranger. Pour revenir à octobre, hein, pour ne pas étaler. Je crois que octobre aussi a été quand même, est venu dans une période quand même historique importante, où il y a eu quelque part la chute du mur de Berlin. Et c'était un coup terrible pour les courants de gauche, parce que vous nous interpellez en tant que parti politique, ça a été un coup terrible pour les courants de gauche, pour affronter cette offensive idéologique nouvelle, parce qu'il y avait aussi, au niveau international, l'islamisme avait des sponsors, hein, on les connaît, hein, les États-Unis et consorts, qui étaient derrière l'islamisme en Afghanistan, que ce soit en Égypte avec les Ikhwan, en Afghanistan, mais partout aussi. Et donc, bien sûr, il y a eu un... Mais l'effort qu'a fait, et moi je parle du PACS, hein, l'effort qu'a fait le PACS en ce moment, et pour justement préserver les acquis de 88, et dire quel est le danger sur cette démocratie, en disant que la contradiction n'était plus en ce moment. On avait deux projets fondamentaux de société. Ça veut dire un projet moderne qui consacrait, qui était dans les valeurs de la démocratie, de la justice sociale, de la liberté. Il y avait un autre projet qui était à l'opposé, complètement à l'opposé, et qui mettait en danger l'État-nation. Donc pour nous, cette lutte, et quand vous nous interpellez sur notre présence, on l'a menée sur ce plan. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de militants de Pax qui ont été assassinés dans cette période. Donc 88 a été directement dévié, on va dire, comme a été dévié de sa trajectoire logique, on va dire, par rapport aux luttes, comme on le venait de dire, en intégrant le fils dans le jeu politique, on a permis, en fait, compte à mettre de nouvelles contradictions dans la société qui n'existaient pas. Et je crois que c'est la même chose qui est arrivée à la fin de la lutte terroriste. Quand on a mis dos à dos entre ceux qui ont résisté contre le terrorisme et ceux qui ont tué. C'est-à-dire, à chaque fois, le système oppose, on va dire, la société pour se préserver la place d'arbitre et aussi d'acteur principal dans le jeu politique. Mais de plus en plus, on voit que la société, après toute cette expérience, on va dire, de 88 à maintenant, elle arrive à trouver des formes. Je parlais tout à l'heure à votre collègue des émeutes. On voit bien qu'il y a eu un mouvement pendant la Bahbouh al-Maliya et tout ce qu'il y a eu. Les Algériens ont demandé quelque part leur part, je dirais entre guillemets, hein, leur part, mais aussi le droit, à, on va dire, à des acquis sociaux, à la route, à l'hôpital, à Ousmou. Ils l'ont fait à travers l'émeute. Et maintenant, aussi paradoxalement, à travers maintenant ce discours de la crise, on est un nouveau mouvement où les émeutes se réduisent, mais aussi il y a désir dans la société d'une forme d'organisation nouvelle. C'est-à-dire, on est arrivé à la fin d'un processus de revendication qui ne pourrait mener qu'à vers des formes nouvelles, des élites nouvelles politiques qui peuvent apparaître, mais syndicales, culturelles, d'ailleurs l'expression culturelle.
Merci, monsieur Wahid. Donc, je reviens à monsieur Mahmoud. Donc, en revenant à la situation d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut constater qu'aujourd'hui, l'Algérie vit la même situation qu'elle a vécue à la veille d'octobre 88, surtout par rapport au discours de gouvernement qui a reconnu pour la première fois la crise? Est-ce que vous constatez que...
Il y a l'adage qui dit que l'histoire se répète mais ne se ressemble jamais. C'est-à-dire, il peut y avoir, bien sûr. C'est-à-dire, on est dans un autre contexte, dans d'autres contradictions.
C'est une tragédie, la deuxième fois, c'est une comédie.
Donc, dans une situation différente. Par contre, ce qui est important de dire, à mon avis, c'est que comme en 1962, en 1988, il y a quelque chose aussi de fondamental qui nous a manqué en Algérie et qui a donné les trajectoires qu'on a connues. Et c'est le parti, le grand parti de masse, le grand parti des travailleurs, le grand parti des démunis, des opprimés dans ce pays, des paysans pauvres, etc., qui n'étaient pas à ce rendez-vous historique, qui n'étaient pas là pour jouer le rôle de cette direction historique dans un moment précis de l'histoire, et donc imposer, disons, à travers un rapport de force populaire, etc., une trajectoire. Quand on dit que, par exemple, sur l'islamisme, le fils, l'agrément, etc., c'est que cela était possible. La preuve, c'est que ça s'est passé. Donc, c'est-à-dire, la question, ce n'est pas en refusant l'agrément qu'on va, en quelque sorte, et ça c'est pour dire une vision qui peut être nuancée ou différente de ce qui a été dit à ce sujet. C'est-à-dire que la question n'est pas la question, c'est qu'on doit défaire le fils et l'islamisme et toutes les idées réactionnaires, obscurantistes, etc., à travers un rapport de force dans la société. C'est comme ça qu'on va les défaire. Parce que même si on leur donne pas d'agrément, eh ben ils existaient avant 88. Ils existaient dans les universités, ils existaient dans la société, dans ils existaient partout, et ils gagnaient du terrain, ils imposaient, donc il fallait, il faut quand même rappeler ça. Et donc en 88, c'est ce parti qui nous a manqué, à mon avis, le grand parti, pour les libertés démocratiques, et pour un projet résolument, qui correspond aux aspirations économiques, sociales et démocratiques, etc., de la majorité des Algériens, c'est-à-dire les travailleurs, les opprimés, les jeunes, les femmes, le combat pour Tamazight, etc. C'est un parti qui incarne tout ce progrès pour l'humanité que nous sommes en Algérie, qui nous a manqué. Et qu'on doit encore aujourd'hui, puisque pour revenir à la question, on doit reposer cette problématique aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, on a besoin de ce parti.
Quand on voit l'état des partis,
on a besoin, est-ce que les énergies, est-ce que les forces, est-ce que les militants qui se réclament et du combat démocratique, etc., mais pas seulement. Parce que la démocratie, les libertés démocratiques n'ont de sens que si sur le plan économique et social, aussi il y a une démocratie, aussi on a des droits économiques et sociaux. Sinon, qu'on donne le droit de parler aux uns et le droit de piller aux autres, ben, je ne vois pas où est la démocratie. Donc la démocratie pour laquelle on doit se battre, la citoyenneté pour laquelle on doit se battre, le projet progressiste pour lequel on doit se battre, ça doit être celui qui allie la question de façon radicale des libertés démocratiques, dans leur sens le plus large, et notamment dans le sens du droit de s'exprimer, du droit de s'organiser, la liberté d'expression, de faire grève, de s'organiser, le droit... Et tous les autres droits démocratiques, mais aussi sur le plan économique et social, qui doit résolument être contre les choix économiques libéraux, qui doit être quelque part contre ce suicide et ce désastre libéral, du libéralisme économique, qu'on est en train de nous imposer, et qui est en train de plus en plus de détruire l'État social, de détruire les acquis sociaux de l'indépendance, l'État social proclamé en 54, qui est en train de le détruire à travers ses choix économiques fondamentalement antinationales, contre les intérêts du peuple algérien, et qui correspondent beaucoup plus aux intérêts d'une minorité que certains appellent aujourd'hui les oligarques, etc., une minorité d'arrivistes, de riches, qui viennent pomper les finances publiques, et aussi dans les intérêts des puissants de ce monde, représentés par les multinationales, etc. On doit être résolument contre ce projet, pour un projet qui construit, qui industrialise notre pays, qui correspond aux aspirations économiques et les besoins économiques et sociaux des Algériens et des Algériennes, et qui est résolument pour les libertés démocratiques, et qui est résolument aussi orienté vers le progrès. C'est ce parti qu'on devait avoir en 88, qu'on n'a pas eu en 62.
Mais même
et qu'on doit construire aujourd'hui, qu'on n'a pas encore construit.
Même la situation d'aujourd'hui, est-ce qu'on a vu l'état des partis politiques et de la société aujourd'hui en état de faiblesse? Est-ce qu'ils sont capables d'encadrer un mouvement ou un soulèvement?
Oui, écoutez, il ne faut pas non plus penser que les partis politiques, qu'un parti politique, ou que dans l'histoire, il y a un parti politique qui a encadré. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est du schématisme. En réalité, au moment d'accélération de l'histoire, au moment où tu as l'irruption des masses dans les processus, révolutionnaire, c'est-à-dire il va y avoir l'auto-organisation avant tout. Bien sûr, les partis politiques doivent, c'est pourquoi je dis il nous a manqué. Le parti politique va accumuler quoi? Va accumuler la mémoire des luttes anciennes, va accumuler les formes d'organisation, il va jouer ce rôle. Mais c'est-à-dire les masses, ils vont aussi voler par leurs propres ailes, à travers l'expérience concrète, etc. Il ne faut pas penser qu'il y a des gens qu'on va mettre bien au chaud dans un placard qui attendent le jour où ça éclate, ils viennent encadrer. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est.
Ce que je veux dire. Il y aurait un encadrement.
Par contre, nous avons besoin de construire ce parti qui va encadrer, qui va jouer un rôle d'encadrement, qui va jouer un rôle d'éducation politique.
Des associations, mais des syndicats.
En réalité, c'est-à-dire, il va falloir aujourd'hui, c'est-à-dire aussi sortir des sentiers battus et de dire que nous avons besoin d'unir les efforts. C'est pourquoi le PST, le Parti Socialiste des Travailleurs que je représente, là dans cette discussion, c'est-à-dire continue à appeler, même si aujourd'hui, d'ailleurs, ces dernières semaines, tu es en train de dire qu'il va falloir reformuler des choses, etc. Parce que nous n'avons pas cessé d'appeler à une convergence démocratique, c'est-à-dire résolument sur les questions démocratiques, antilibérales et anti-impérialistes. Il faut cette convergence. On va trouver moyen comment appeler ça. On va voir comment pouvoir la faire progresser sur le terrain. Mais c'est-à-dire on est obligé de dire que cette disparité, cette dispersion des énergies et des forces qui vont dans ce sens, il faut qu'elle cesse si nous voulons changer le rapport de force, si nous voulons imposer une autre destinée contre le libéralisme et son désastre économique et social, et contre la mainmise des puissants de ce monde et leur multinationales.
Voilà, donc, une autre question directe, M. Wahid, ça veut dire, est-ce que c'est pas nécessaire qu'il y aurait un autre octobre 88 aujourd'hui?
C'est possible. Non, ça c'est possible. Ça c'est possible parce qu'on l'a vu. Moi, je disais tout à l'heure que après la fin, on va dire après l'arrivée de Bouteflika et son projet de concorde civile, là où on s'attendait pas justement à aucun mouvement, on croyait que la société était neutralisée, on a eu le mouvement citoyen. Et moi, je suis d'accord dans le sens. Et on l'a eu ça, c'est-à-dire, si on revient même au mouvement national, là où il y avait une dépression, on va dire, dans le moral des Algériens et par rapport à la faillite de la classe politique à un certain moment, on a eu un FLN qui est apparu et qui a pu mobiliser toute la société et participer, on va dire, à un processus de libération de l'Algérie. Et je crois que l'Algérie, en fait, contre les Algériens, on le voit dans le processus des élections qui est entamé dernièrement. On voit de plus en plus l'abstention, mais qu'est-ce qui est le phénomène nouveau qui apparaît? C'est le vote blanc. Ça, les Algériens, quelque part, ne sont pas seulement dans le rejet, ou là, dans le nihilisme. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui sont dans le nihilisme et qui disent qu'il n'y a rien eu depuis 62 jusqu'à maintenant. Non, les Algériens sont en attente, en fait, compte d'une classe politique qui, réellement, leur propose un nouveau système politique. Un nouveau système politique qui enlèverait déjà les partis État, qui consacrent, on va dire, une forme de despotisme, mais aussi qui ouvrirait quelque part tout le champ démocratique, dans le sens, que ce soit dans la forme de partis politiques libres. Nous, on est pour un régime déclaratif des partis politiques, mais aussi dans la démocratisation du travail syndical, dans la représentation féminine et effective de la femme dans la société qui, de plus en plus, est présente dans notre société, mais aussi la jeunesse. Et donc, nous, on nous appelons un front national, nous appelons un front national parce que nous croyons que la période dans laquelle on est dangereuse. Nous devons nous asseoir sur un substrat des acquis de 88, mais aussi aller vers une nouvelle république, dans le sens qui acte tout ce qui a été fait depuis 62 jusqu'à maintenant, mais 88, on parle de 88 comme l'expression de l'ouverture politique, mais aussi, je dirais bien sûr, à une forme d'une Algérie sociale, telle qu'a été revendiquée dans novembre 54. Bien sûr qu'il faut acter ça, mais je crois que l'Algérie maintenant est devant un enjeu international grand et important. Il y a des dangers importants au niveau international, mais la société, de plus en plus, en s'abstenant et en votant blanc, elle dit qu'elle ne joue plus à ce jeu avec le système. Et le système est saisi qu'il ne peut plus manipuler la société sur ces questions. Et de plus en plus, les Algériens prendront à la première prise d'un parti politique qui viendrait incarner ces valeurs, parce que nous, ça fait longtemps qu'on parlait d'une obsolescence de la classe politique, bien sûr. Nous, le MDS, que ce soit le PST, on est vu dans cette obsolescence de la classe politique. Mais l'effort qui nous est exigé, c'est justement de ne pas abandonner et de montrer, on va dire, de proposer des projets alternatifs. Des projets alternatifs qui, bien sûr, sur le plan politique, consacreraient la démocratie réelle, la participation concrète et active des citoyens et citoyennes algériennes, mais aussi qui permettraient de défendre les acquis sociaux. Pour revenir, seulement, la confrontation, elle n'est pas seulement un rapport de force dans la société. Je crois que 54, le processus du mouvement national, il s'est basé sur le vote, mais à un certain moment, on a dit qu'il faut aller vers la confrontation. La confrontation avec l'islamisme, sur le plan militaire, mais je dirais aussi politique, a permis de conserver l'État. Parce que c'était pas pour moi, c'est important, hein, c'est important de nuancer, parce qu'on le voit. Parce qu'on a 25 ans, là, plutôt en 2017, on a des pays qui ont disparu, qui se sont morcelés. Donc ce n'est pas forcément l'existence d'un courant politique. Et d'ailleurs, même les démocraties occidentales ont des problèmes avec des partis pareils. C'est des démocraties avancées et ils ont un problème réel dans le jeu démocratique avec ces démocraties. Donc nous disons donc, que l'Algérie a avancé sur ce plan. Le MDS dit qu'il faut aux Algériens qu'il faut qu'il aille pour la conquête des institutions. Ceux qui tiennent le discours de l'abstention réellement et du nihilisme sans en fait compte ne sont que la deuxième face du pouvoir parce que réellement ils défendent et ils maintiennent la présence du pouvoir. Et je dirais une seule chose et une deuxième chose, nous appelons à voter blanc dans ces élections, même si le MDS ne sera pas présent, il a tout fait pour que les signatures et des mesures que nous croyons très sévères que le pouvoir fait justement exprès.
Est-ce que vous voyez que le vote blanc c'est une solution?
Bien sûr, c'est une solution. Le vote blanc, il faut mobiliser la société. C'est pas en s'abstenant qu'on essaiera de réunir les conditions du changement. Il faut que les citoyens se mobilisent pour la conquête. C'est-à-dire, il faut qu'ils votent déjà. Peut-être pour qu'ils votent les citoyens qui ont organisé des listes libres, qui veulent défendre des projets eux-mêmes dans un niveau local. Bien sûr qu'ils... Mais le fait de participer au vote et de voter blanc, parce que nous, le MDS, nous disons que notre projet n'est pas représenté et nous appelons les Algériens à aller vers ce vote blanc. Et nous allons profiter de la période électorale pour défendre ce projet.
Il ne reste pas beaucoup de temps, donc voilà, monsieur Mahmoud, je reviens pour toi de nous donner un mot à l'occasion, un dernier mot à l'occasion de la commémoration de 29 ans après les événements d'octobre.
Oui, écoutez, c'est-à-dire, quand même, c'est-à-dire, ce qu'il faut dire, notamment ne pas oublier, c'est évidemment l'hommage qu'on doit rendre aux victimes d'octobre.
Aux
martyrs d'octobre, aux mutilés.
Aujourd'hui, on ne voit pas que cette date commémorée par des partis politiques et des syndicats.
Eh bien, ça devrait, peut-être parce que, aussi, il y a 29 ans certainement depuis octobre et entre les deux il y a justement ces années de guerre la décennie des années 90 etc. et qui à mon avis c'est-à-dire représenter un intermède, une grande parenthèse entre justement les luttes d'avant les années 90, et il y a une sorte d'interruption, il y a une sorte de coupure intergénérationnelle, etc., par rapport à cette tradition de lutte que j'ai essayé tout à l'heure d'évoquer depuis les années 60-70. Et donc, c'est-à-dire, je voulais aujourd'hui donc rendre hommage à ces victimes. Au moins, n'oublions pas qu'il y a eu près de 500 jeunes qui ont été... j'ai parlé des torturés, j'ai parlé des mutilés, j'ai parlé de tous ceux qui ont été... victime, et il va falloir aujourd'hui, grâce à vous, grâce au micro de la radio web d'Orage, de dire combien on tient à leur rendre hommage et combien on doit justement les incruster dans notre mémoire collective, la mémoire des luttes dans ce pays, la mémoire des luttes pour l'émancipation du peuple algérien, pour les libertés démocratiques, pour le cap des libertés, mais aussi par rapport à cette problématique économique et sociale, parce qu'on est obligé de le dire. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de les démocraties avancées, ben les démocraties avancées, c'est quoi aussi? Je veux dire, c'est le système capitaliste, on est en train de le voir, comment il est en train de prendre de l'eau de partout. C'est-à-dire, si en Algérie, on parlait, on a le bipartisme FLN-RND, ben en France, ça a tout le temps été le PS et la droite, et aux États-Unis, c'est les démocrato-républicains, et en Angleterre, pays aussi avancé, c'était les conservateurs ou les travaillistes, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, ce système est en train, capitaliste est en train, sa façade d'aller démocratique, etc., est en train de prendre de l'eau. On voit bien ce qui se passe ailleurs. Et le fait qu'il soit justement l'émanation ou l'expression des intérêts de classe d'une minorité dans la société au niveau local ou à l'échelle mondiale, on voit bien que c'est quelques multinationales qui décident. On voit bien que c'est une minorité, donc c'est-à-dire pas démocratique. Et ben on voit bien que le combat doit être aussi un combat sur ce terrain. Et je pense que, bien entendu, que c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va revenir aux luttes. Il peut y avoir des moments où, évidemment, où il y a des reculs, etc. Ça existe, l'histoire n'est pas linéaire, ce machin n'avance pas. Des fois, on régresse, c'est la preuve. On disait au début de cette émission qu'il y a une régression sur la liberté, ça veut dire qu'on a reculé. Mais on ne recule que pour généralement revenir, au lieu de revenir à... Et on a bien vu que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que les luttes sociales et les luttes démocratiques ne peuvent pas disparaître, ils vont revenir de plus belle. Et dans les mois et dans les années à venir, surtout,
oui, la société et surtout, le chemin de la lutte
et surtout
de combat.
Contre la dictature qui est en train de s'installer, la destruction de l'État social, l'attaque des acquis sociaux, les subventions, etc., les retraites, etc., en Algérie, à travers notamment le nouveau gouvernement OIRIA. Donc il va y avoir des résistances. Et c'est les résistances sociales à travers les syndicats, à travers les mouvements sociaux, à travers les comités de citoyens, etc., etc. C'est toutes ces luttes réelles, et non pas qu'on doit traduire politiquement, qu'on doit traduire dans un projet politique alternatif
qui
nécessite la synergie et la solidarité, l'unité de tous ceux qui luttent dans cette perspective.
Merci
beaucoup, beaucoup.
Un dernier mot pour monsieur.
Moi, je dis que pour 88, bien sûr, il faut rendre hommage et il faut que cet événement devienne quand même un repère dans la mémoire, on va dire, dans le récit national quelque part, politique et dans la société. Il faut que ça soit un repère important. Dernièrement, on vient de la télé algérienne a fait, on va dire, un reportage de 12 années de la réconciliation, la deuxième année de la réconciliation nationale. Il faut que la télé algérienne aussi fasse ce type d'émission sur 88 pour qu'il soit de plus en plus. Il faut qu'on. Parce que je crois que les sociétés qui avancent, c'est celles qui bougent à chaque fois, ont des événements, les contradictions dans les sociétés, l'évolution des. Bouge. On a eu 54, on a eu les événements, on a dit, en post-indépendance, on a eu 88 quand même, qui est une date charnière dans le processus de démocratisation algérienne. Donc c'est important, cette date, il faut la conserver. Moi, j'appellerai toujours pour que, bien sûr, que la société algérienne, je crois, qui n'a pas arrêté de résister par rapport à tout ce qui a été, bien sûr, le processus de tout ce qui a été cassé par rapport à les acquis sociaux qui ont été en Algérie. Et bien sûr, elle a résisté, mais je crois qu'elle est capable de générer et de créer de nouvelles formes de résistance et de lutte et qui ne tarderont pas à apparaître par rapport à la pression de plus en plus sur le caractère social de l'Algérie. Ça, c'est évident. Mais concernant la démocratisation de l'Algérie, je crois que l'Algérie aussi a avancé par rapport à sa lutte contre l'islamisme, parce que sur le processus, je dirais, historique dans le monde arabo-musulman, ouais, la séparation du politique et du religieux est devenue une question fondamentale. Et ça, je crois que l'Algérie a fait un pas énorme qui pourra, on va dire, aller vers, on va dire un débat démocratique plus apaisé, une minute, apaisé. L'Algérie a réglé une question fondamentale aussi, c'est la question de l'identité apaisée. De plus en plus, de plus en plus, les Algériens parlent de leur algérianité avec son socle, bien sûr, un mazir. Il y a un consensus national sur ses acquis et donc ce qui place, on va dire, une plateforme importante pour aller vers une Algérie démocratique.
Merci beaucoup donc pour M. Wahid, membre de secrétariat national de MDS. Aussi, merci à M. Mahmoud Rushdi, secrétaire général du Parti Socialiste des Travailleurs. Donc, on est arrivé à la fin de cette émission, auditrices et auditeurs de la Web Radio Rage, Voix de Jeunes. On vous donne un rendez-vous avec d'autres émissions, toujours la commémoration de 29 ans à Paris des événements d'octobre 88. Au revoir.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.